Vous écoutez, on lit pour vous.
Une guerre de l'eau entre les États-Unis et le Canada est-elle un scénario plausible? Un texte de Jasmine Legendre, paru le 5 juin 2025 dans Le Devoir. À peine élu, Donald Trump a relancé un vieux fantasme. Puisé dans les vastes réserves d'eau douce du Canada, pour répondre aux sécheresses qui sévissent dans le sud des États-Unis. « Nous devons avoir cette eau », a-t-il déclaré fin janvier 2025, en réaction aux incendies dévastateurs qui ravageaient la Californie. Il ne cache pas son désir d'étancher la soif des États-Unis par ce gros robinet qu'est à ses yeux le Canada. Mais comment pourrait-il s'y prendre? La guerre de l'eau, en fait, a déjà commencé, affirme Isabelle Thomas, professeure titulaire à la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Elle cite deux exemples de guerres indirectes déjà en cours sur notre territoire. L'enfouissement de déchets dangereux par l'entreprise Stablex, qui menace les nappes phréatiques, et la pollution du lac Memphrémagog, causée par des dépotoirs et des villes américaines qui rejettent dans l'eau des substances toxiques, les PFAS. Mais Donald Trump veut aller plus loin, épuiser directement dans cette ressource canadienne de plus en plus rare aux États-Unis. Dans un article publié en 2024 dans le New York Times, le professeur Jay Famiglietti dresse un portrait alarmant. Depuis un siècle, les Américains surexploitent leurs ressources en eau, notamment dans la Central Valley, en Californie, une région agricole qui fournit le quart de la nourriture du pays. Avec les changements climatiques et la sécheresse, la situation se dégrade et les réserves d'eau peinent à se renouveler. Le principal secteur responsable de l'essentiel de la demande en eau aux États-Unis, c'est l'agriculture, qui consomme à peu près 80 % de la ressource. Le secteur de l'agriculture ne fait pas beaucoup d'efforts pour améliorer ses techniques, explique Frédéric Lasserre, professeur de géographie à l'Université Laval. Est-ce que notre eau est suffisamment protégée? Les eaux partagées avec les États-Unis sont encadrées par plusieurs lois et traités qui agissent comme rempart contre les transferts importants d'or bleu. Depuis 1999, la loi visant la préservation des ressources en eau interdit de transférer en grande quantité des eaux prélevées sur le territoire québécois. Elle visait à répondre aux préoccupations de l'époque entourant l'exportation massive de cette ressource naturelle en vrac. Au fédéral, la loi sur la protection des eaux transfrontalières adoptée en 2013 interdit de prélever de l'eau des bassins versants que l'on partage avec les États-Unis. Puis, l'accord Canada-États-Unis-Mexique prévoit que, tant que l'eau est dans son état naturel, elle n'est pas considérée comme un produit commercial. Des experts craignent néanmoins que cette clause soit un levier de négociation pour Donald Trump. Finalement, le traité des eaux limitrophes, signé en 1909, vise à prévenir les conflits liés à l'utilisation de l'eau, administrée par la Commission mixte internationale. Il ne confère pas de pouvoir contraignant, mais permet de formuler des recommandations visant à protéger la qualité de l'eau et à assurer une gestion équitable entre les deux pays. Ces principaux remparts devraient, selon des experts, protéger l'eau québécoise des visées du 47e président des États-Unis, même s'il existe d'autres traités propres à certains cours d'eau et à certaines provinces. Si Donald Trump décidait de déchirer ces ententes-là et de faire fi complètement de plus de 100 ans de collaboration et de signature de traités intergouvernementaux, il y aurait d'immenses levées de boucliers des deux côtés de la frontière et de l'ensemble de la société civile, avance Gabriel Roy Grégoire, chargé de projet pour la gouvernance de l'eau chez Eau Secours. Très coûteux. Frédéric Lasserre ajoute que l'idée de déplacer de l'eau des Grands Lacs, par exemple, jusqu'au sud des États-Unis serait un projet très coûteux qui ne pourrait pas être assumé entièrement par les agriculteurs. Des données du gouvernement du Canada datant de 2007 révèlent qu'à grande échelle, les coûts d'exportation d'eau en vrac vers les États-Unis s'élèveraient à entre 2,67 et 6,33 par mètre cube. Ça revient moins cher de dessaler. On arrive à des coûts de revient de l'ordre de 70 cents le mètre cube, explique-t-il. Pour l'organisme Eau Secours, qui se mobilise pour la protection de l'eau douce, une guerre de l'eau est un scénario peu plausible. Ça sera un peu l'équivalent d'entrer au Canada avec des tanks, exprime Mme Roy Grégoire. M. Lasserre croit, lui aussi, qu'il faut relativiser les paroles de M. Trump, mais qu'on doit rester sur nos gardes. Il n'y a même pas eu de demande officielle de la part des États-Unis formulée à l'endroit du Canada. Est-ce que ça veut dire que ce sera toujours des inquiétudes exagérées? Je pense qu'il faut rester vigilant. Les garde-fous économiques et la réticence sociale font en sorte que c'est difficile d'aller de l'avant avec ces projets de transfert massif du Canada vers les États-Unis. C'était « Une guerre de l'eau entre les États-Unis et le Canada est-elle un scénario plausible? » Un texte de Jasmine Legendre, paru le 5 juin 2025 dans Le Devoir.
Montréal dit non à la tarification des poubelles. Un texte de Marco Fortier paru le 31 mai 2025 dans Le Devoir. C'est une des façons les plus efficaces d'inciter les gens à produire moins de déchets, les faire payer en fonction de la quantité d'ordures qu'ils envoient au dépotoir. En pleine année électorale, les élus municipaux, notamment à Montréal, hésite toutefois à imposer cette solution impopulaire, même si les sites d'enfouissement sont remplis au maximum. Une poignée de villes québécoises, dont Beaconsfield, dans l'ouest de l'île de Montréal, ont instauré avec succès la tarification incitative des ordures, aussi appelée tarification à l'acte. Plus les résidents envoient de déchets à l'enfouissement, plus leur facture pour la collecte est élevée. Après avoir étudié la question pendant 5 ans, l'administration de Valérie Plante exclut pour le moment de recourir à cette mesure d'écofiscalité à Montréal, a appris Le Devoir. Pour réduire la quantité de déchets envoyés au dépotoir, la ville mise d'abord sur l'espacement de la collecte des ordures ménagères toutes les 2 semaines et sur une hausse de la participation à la collecte des matières organiques par le bac brun. Nous sommes dans les phases préliminaires d'exploration en matière de tarification, affirme Marie-Andrée Mauger, mairesse de l'arrondissement de Verdun et responsable de l'environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal. On y a porté une certaine attention à la tarification, mais ce qu'on a vu, c'est qu'il est recommandé, dans une première étape, d'avoir d'abord mis en place l'espacement de la collecte aux 2 semaines, précise-t-elle. Il est vrai que le consensus scientifique en matière de gestion des déchets considère la tarification incitative comme la dernière étape en vue de réduire de façon importante la quantité d'ordures destinées à l'enfouissement. Avant de punir les délinquants qui refusent de recycler ou de composter, il faut leur offrir la collecte du bac bleu ou vert pour le recyclage et du bac brun pour le compostage des restes de table. La ville aura déployé la collecte du bac brun sur presque tout le territoire montréalais à la fin de l'année 2025, souligne Marie-Andrée Mauger. Le bac de recyclage est déjà présent partout. Quant à la collecte des ordures toutes les 2 semaines, L'objectif reste de l'étendre à toute la ville d'ici 2029. Résistance citoyenne. Le parti Ensemble Montréal, qui forme l'opposition officielle à l'hôtel de ville, est d'accord avec la décision de l'administration Plante de ne pas imposer la tarification en fonction du volume de déchets envoyés à l'enfouissement. Il faut faire de l'éducation plutôt que de punir les citoyens, dit Stéphanie Valenzuela, porte-parole de l'opposition en matière d'environnement. La ville a du pain sur la planche pour faire connaître sa vision d'enfouir zéro déchet d'ici 2030, rappelle l'élu municipal. À peine la moitié des Montréalais participent à la collecte des matières organiques par l'entremise du bac brun. Et la majorité, 54%, s'oppose à la collecte des ordures deux fois par mois plutôt que chaque semaine. En cette année d'élections municipales, les Montréalais restent aussi opposés à la tarification incitative de la collecte des ordures, révèle un sondage commandé par la Ville que Le Devoir a pu consulter. Près de la moitié, 49% des répondants s'opposent à cette mesure, qui consiste à faire payer les citoyens en fonction des quantités de déchets jetés à la poubelle pour valoriser la réduction de la consommation, la réutilisation et le recyclage. On dirait la petite vie. Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, FCQGED, est convaincu que les municipalités, y compris Montréal, doivent redoubler d'efforts pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion des ordures. Quand on touche au vidange, la réaction des gens devient épidermique. On se croirait vraiment dans un épisode de la petite vie, dit-il. Cet observateur aguerri de la gestion des déchets estime qu'il est trop facile de tout mettre à la poubelle au Québec. Il estime que les municipalités doivent en faire plus pour inciter les gens à participer aux collectes du bac bleu et du bac brun, et pour qu'ils arrêtent de mettre leurs déchets sur le trottoir n'importe quand, sans tenir compte de l'horaire de la collecte, ce qui rend les lieux insalubres et favorise la présence de rats. La tarification incitative fonctionne bien, assure Karel Ménard. Cette mesure est très rare au Québec, mais répandue ailleurs dans le monde, notamment en Europe et en Asie. La tarification en fonction du volume de déchets ne vise pas à embêter les gens. Les propriétaires paient déjà une taxe pour la collecte des ordures, mais protègent l'environnement et font économiser des fonds publics à cause de la réduction de la quantité de déchets à enfouir. Les rares villes québécoises qui ont instauré ce mode de tarification de la collecte des déchets, notamment Gatineau, Lorraine et la MRC du Rocher-Percé, ont noté une baisse du volume d'ordures envoyées à l'enfouissement, confirme Recycle Québec. Cette saine gestion des déchets peut même devenir une source de fierté pour les résidents, souligne l'organisme. C'était « Montréal dit non à la tarification des poubelles », un texte de Marco Fortier paru le 31 mai 2025 dans Le Devoir.
Des lampes faites de bière et de café, un texte d'Isabelle Morin, paru le 21 juin 2025 dans la presse. Recycler des résidus de café et de bière pour en faire du mobilier et des accessoires déco, l'idée étonne et peut même sembler farfelue. Pourtant, elle prend déjà forme grâce au pari relevé par deux entrepreneurs de Québec. Encore leur jeune entreprise est la première en Amérique du Nord à offrir ce type d'objet éco-responsable qui invite à penser la création autrement. L'idée d'Encore est née d'un problème aussi commun qu'invisible, celui des gisements de matière organique dans les centres urbains. Entre autres déchets, ces sites accueillent des tonnes de drèches, de bières, de marques ou de chaffes de café générées par les microbrasseries et les torréfacteurs. Qu'en faire a été la prémisse d'un projet ambitieux. la drèche de bière, était anciennement donnée aux fermiers pour nourrir les animaux. L'essor des microbrasseries et des micro-torréfacteurs en ville et à distance, qui séparent ces commerces des exploitations agricoles, ne favorise pas ce transfert de bons services. Résultat, ces matières riches et encore pleines de potentiel deviennent un fardeau économique et écologique pour les producteurs qui doivent faire appel à des services de collecte privés pour s'en débarrasser, explique Nicolas Jourdan-Gassin, cofondateur et responsable marketing d'Encore. Il y a 2 ans, avec son partenaire Alexandre Savard, qui se spécialise en génie des matériaux ligno-cellulosiques, le jeune entrepreneur a développé une technologie de transformation de ses déchets, ou ce que l'on considère comme étant des déchets, nuance-t-il, en matériaux durables. Ensemble, ils ont conçu un procédé peu énergivore basé sur le thermoformage qui donne naissance à une matière rigide dont les propriétés sont comparables à celles du bois. Il n'y a que 7,2% de la production mondiale qui est circulaire, dit Nicolas Jourdan-Gassin. Ça fait donc un peu plus de 92% des ressources qu'on extrait qui sont jetées après usage. De la matière perdue à la création. Chaque pièce est façonnée à partir d'un liant biosourcé dont la formule reste secrète. Le matériau ainsi généré a une empreinte carbone minimale et est durable lorsqu'il est utilisé à l'intérieur. Puisqu'il est compostable et donc biodégradable, l'équipe planche actuellement sur les façons de le rendre résistant aux éléments pour un usage extérieur. On veut montrer qu'un autre modèle de production est possible. Ce qu'on appelle déchet, c'est souvent une ressource mal placée. Et on pense qu'on a plus de chances d'influencer les gens et de changer les mentalités avec une belle lampe qu'avec une boîte d'œufs, évalue Nicolas Jourdan-Gassin. La dernière création d'Encore, Ombra, est une gamme de luminaires faits de résidus organiques locaux. Le processus ouvre toutefois la porte à de multiples applications et est déjà appliqué à la création de sous-verres et de médailles sportives. L'ambition ne manque pas, les idées non plus. Cette matière pourrait être utilisée pour faire du mobilier, des emballages pour remplacer ceux en plastique à usage unique, des matériaux d'isolation, voire de construction, rêve déjà Nicolas Jourdan-Gassin. On veut qu'il devienne une base de travail pour les designers et les architectes. On imagine Encore comme une galerie de collaboration créative. Créé pour l'avenir. Depuis le début des recherches, il y a 2 ans, l'équipe a pris conscience qu'elle peut avoir un impact sur l'environnement, non seulement dans la revalorisation de tonnes de matières délaissées, mais aussi dans un changement de mentalité, souligne son cofondateur. Encore, s'inscrit dans un mouvement de fond qui a bonne presse et qui envisage la production d'objets autrement à travers une économie circulaire. Il faut désapprendre certains réflexes, selon Nicolas Jourdan-Gassin, comme celui de croire qu'un objet fait de déchets est forcément de moindre qualité ou qu'il est réservé à ceux qui ont les moyens de s'offrir des biens de luxe. On veut prouver le contraire et encourager la discussion, poursuit Nicolas Jourdan-Gassin. Et ça commence avec quelque chose d'aussi simple et aussi fort qu'un luminaire. La gamme de luminaires Ombra marque le début d'une série de produits offerts à la commande. Une campagne de sociofinancement en cours jusqu'au 15 juillet permet aux consommateurs de précommander ces objets engagés. C'était « Des lampes faites de bière et de café », un texte d'Isabelle Morin, paru le 21 juin 2025 dans la presse.
Fierté des entrepreneurs 2ELGBTQI+, un texte d'Yves Lafontaine paru le 17 juin 2025 dans le magazine Fugue. Dans le cadre de son programme Fierté des entrepreneurs 2ELGBTQI+, qui vise à accroître la visibilité de la communauté d'affaires 2ELGBTQI+ et à soutenir les entrepreneurs dans leur parcours, la Chambre de commerce LGBT du Québec, CCLGBTQC, lance différentes initiatives audacieuses, dont certaines proposent des ressources pour accompagner la relève. Parmi les actions phares du programme, on retrouve un partenariat avec Réseau Mentorat qui offre une occasion unique de mentorat par laquelle les entrepreneurs peuvent établir des liens avec des personnes d'expérience prêtes à les guider. Il est prouvé que les entrepreneurs bien entourés ont de meilleures chances de réussir. Le mentorat proposé se distingue par sa nature humaine et authentique. Il repose sur l'écoute, la confiance et le respect mutuel, sans être une thérapie ni un coaching. Les mentors partagent leur expérience, offrant des conseils éclairés et des réponses adaptées à chaque entrepreneur, une rencontre à la fois. En rejoignant le programme, l'entrepreneur aura la chance de tisser des liens précieux avec des mentors qui ont à cœur son épanouissement. Ces experts sont là pour l'aider à relever des défis, à surmonter des obstacles et à s'accomplir dans le monde des affaires. Les bénéfices du mentorat sont nombreux. Entre autres, il permet d'échanger avec un entrepreneur d'expérience, de développer des compétences entrepreneuriales et de gagner en assurance. Les entrepreneurs ont également la chance d'améliorer leur équilibre entre vie professionnelle et personnelle, de réduire le stress et l'isolement souvent associés à la gestion d'une entreprise. En étant écoutés sans jugement, ils et elles peuvent être encouragés et inspirés, ce qui augmente la viabilité de leur entreprise. Le mentorat au sein du réseau Mentorat se concentre sur une relation humaine entre dirigeants, dirigeantes d'entreprise, où le mentor, fort de son expérience, aide à développer les compétences et le mieux-être de l'entrepreneur mentoré. Les mentors du programme Fierté sont des gens d'affaires expérimentés, issus des communautés LGBTQ+, tous sélectionnés avec soin et formés aux techniques d'accompagnement. Ils s'engagent à respecter un code éthique et des règles strictes de confidentialité. Provenant de divers secteurs d'activité, y compris l'entrepreneuriat social et le secteur coopératif, ces mentors sont prêts à soutenir les entrepreneurs, quel que soit leur âge ou le stade de développement de leur entreprise. Pour intégrer le programme de mentorat de fierté des entrepreneurs 2ELGBTQI+, les candidats, candidates doivent répondre à certains critères. Être propriétaire de leur entreprise, détenant plus de 50 % des actions, et celle-ci doit être en démarrage, en activité depuis au moins 6 mois, en croissance ou dans une période d'équilibre. Les entrepreneurs intéressés peuvent également provenir d'une situation de reprise ou de transfert d'entreprise. Enfin, il est essentiel que les candidats, candidates, fassent partie de la communauté 2ELGBTQI+. Ces critères visent à garantir que le programme soutient efficacement ceux et celles qui sont véritablement engagés dans le développement entrepreneurial au sein de la communauté, renforçant ainsi la vitalité et la diversité du paysage économique du Québec et du Canada. Portrait de mentor. Ciro Jaen Paniza. Basé à Montréal, Ciro Jaen Paniza est un stratège marketing spécialisé en marketing durable et en transformation numérique. Il accompagne les entrepreneurs souhaitant bâtir des marques à la fois authentiques et performantes. alliant innovation responsable, IA générative et intelligence marketing, il conçoit des stratégies ancrées dans les valeurs d'impact, d'équité et de durabilité. Mentor engagé, il soutient la relève en France et au Québec, notamment via la JCCM et Circonflex. Sirôme, il est activement pour l'inclusion des talents 2SLGBTQIA+, dans l'écosystème entrepreneurial. Gilles Vauty. Fort de plus de 30 ans d'expérience, Gilles Vauty est un entrepreneur multidisciplinaire animé par les valeurs d'authenticité et d'efficacité. Courtier immobilier et hypothécaire avant d'acquérir une entreprise de fabrication pour le secteur minier, revendue en 2024, il dirige aujourd'hui Groupe Voyati Incorporé, offrant des services en gestion et en accompagnement stratégique. Reconnu pour sa capacité à tisser des liens sincères, il transmet avec passion son expertise à la relève entrepreneuriale. Olivier Pouliot. Curieux et analytique, Olivier Pouliot adopte une approche stratégique du courtage immobilier. Actif depuis 2012, il est passé du résidentiel au commercial, travaillant avec des entreprises émergentes et établies. Président fondateur de sa propre agence, il valorise l'excellence et la collaboration. Membre du comité de l'OACIQ et impliqué dans plusieurs OBNL, il œuvre pour la diversité sexuelle et de genre. Son mentorat reflète une compréhension fine des réalités d'un marché en constante évolution. Pierre-Luc Delisle-Lamoureux. Entrepreneur 2ELGBTQI+, et militant, Pierre-Luc Delisle-Lamoureux incarne un leadership à la fois performant et inclusif. Fondateur de l'agence Delisoft, il a soutenu numériquement plus de 1000 entreprises, misant sur le SEO, Search Engine Optimization, et le retour sur investissement. Copropriétaire de plusieurs sociétés et père monoparental grâce à une GPA, il milite pour la diversité familiale. Administrateur à la Chambre de commerce LGBT du Québec, il accompagne la relève avec une approche franche et humaine, encourageant chacun, chacune, à réussir sans compromis sur son identité. Info. Pour vous inscrire, site web cclgbtq.org. C'était Fierté des entrepreneurs 2ELGBTQI+. Un texte d'Yves Lafontaine paru le 17 juin 2025 dans le magazine Fugue.